L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Alors, selon un rapport sur la cour, de la Cour des comptes en 2024, les 7500 écoles privées sous contrat avec l'État sont financées à hauteur de 75% par des fonds publics. Mais toujours d'après ce rapport, entre les subventions de l'État et celles des collectivités, personne ne connaît le montant total de cette dépense publique qui s'opère dans un criant manque de transparence. Un manque de transparence qui se retrouve du côté des établissements eux-mêmes. Affaire Bétarame, Averroès ou Stanislas, plus récemment encore Ozanam, nombreux semblent être les établissements privés qui adoptent des pratiques non reconnues par l'école publique quand elles ne sont pas tout simplement criminelles. Tous ces éléments amènent quelques questions. Question économique tout d'abord, pourquoi les écoles privées sont-elles financées par des fonds publics? Quelles garanties ces établissements doivent-ils à l'État et sont-elles respectées? L'État ne devrait-il pas se dispenser de cette dépense dans un contexte d'économie de guerre et de remboursement de dettes qui annonce un nouvel effort budgétaire de 40 milliards d'euros en 2026? Et cette interrogation économique en cache une autre. Quid de la laïcité? L'école laïque est en effet un fondement de la République française, or les écoles privées sous contrat sont à 96% des établissements d'enseignement catholiques. Alors comment peut-on garantir une éducation laïque dans ces conditions? Nous laisserons volontairement de côté pour cette émission les questions liées aux potentiels actes criminels de Bétarame, Stanislas et autres Ozanam, pour nous concentrer sur ce sur quoi il nous est possible de réfléchir sans empiéter sur le terrain de la justice. Et pour nous éclairer sur ces questions, nous recevons Émilie Moisan-Janard, maîtresse de conférences en droit public, directrice du master de droit public, parcours affaires et politique publique sur le campus de Laval et de Le Mans Université. Bonjour.
Bonjour.
Alors également à notre micro, Hugo Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le référent laïcité de Le Mans Université et nous vous avons déjà invité à quelques reprises sur Radio Alpa pour nous éclairer sur des questions relatives à cette notion capitale. Alors pour commencer, partons peut-être de la base, l'école de Jules Ferry, gratuite, laïque et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 13 ans. Mais on parle là de l'école publique, ce qui signifie que l'enseignement privé n'a jamais eu à suivre ses principes, c'est ça, Émilie Moisan-Janard?
Alors pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord commencer par rappeler que l'école est en principe publique. Et c'est effectivement l'héritage de Jules Ferry que vous mentionnez. On pourrait aussi même remonter à la Révolution française. Mais c'est vrai que c'est dans les années 1870-1880 que le législateur a imposé d'une part de former des enseignants laïcs et d'autre part de créer un enseignement primaire, gratuit, laïque, obligatoire pour tous les enfants de 6 à 13 ans. Alors pourquoi ces réformes? Pourquoi à ce moment-là? Parce que le personnel, parce que les républicains, donc le personnel politique de l'époque, souhaitaient d'une part retirer aux religieux le monopole de l'enseignement et d'autre part démocratiser l'enseignement, c'est-à-dire le rendre accessible à tous les enfants, indépendamment des conditions sociales, de leurs origines sociales, des revenus de leurs parents. Et tout au long du 19e, ce cadre, il a été complété, il a été renforcé. Pourtant, il a continué d'exister des établissements privés, simplement ils n'étaient pas subventionnés par le public. Et au XXe siècle, on a un virage franc qui a été opéré en 1959 par une loi qu'on appelle la loi Debré, qui a permis un financement public des établissements privés à condition de signer un contrat entre l'établissement et l'État. Deux conditions pour cela, il faut qu'il y ait un besoin scolaire reconnu. Et deuxième condition, il faut que l'établissement organise l'enseignement comme l'enseignement public, donc conformément aux règles qui se posent pour les écoles publiques.
Alors, un besoin scolaire reconnu, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il y a une école, soit il n'y a pas d'école, donc il faut en créer une, soit il y en a une, mais elle n'est pas en capacité d'absorber le flux des élèves. Et donc, autrement dit, pour répondre à votre première question, c'est bien l'école publique qui est laïque, gratuite, obligatoire. L'école privée, elle doit respecter les programmes. Elle doit accueillir les élèves sans distinction d'origine, de croyance, d'opinion. Mais un enseignement religieux pourra y être proposé. Je dirais même que c'est l'essence de l'établissement privé. Et d'ailleurs, si je prends les chiffres, le nombre d'établissements privés recensés en 2023, 9350 à peu près, 95% ont un caractère propre confessionnel. Et d'ailleurs, vous le disiez en introduction, en grande majorité catholique. Donc, l'école privée, elle demeure donc en France essentiellement religieuse, et en particulier catholique.
Alors l'enseignement privé, c'est 13 milliards d'argent public et 15% du budget de l'éducation nationale selon la loi de finances 2024. Le budget de l'enseignement privé sous contrat augmente plus vite que celui du public. Pour donner un exemple sartois, la municipalité de Bonnétable a augmenté de 287% en 9 ans la contribution pour l'école privée du Sacré-Cœur, qui chaque année depuis 2019 est pourtant en excédent de 12 000 euros. Alors est-ce qu'il existe des limites au financement public aux écoles privées, ou bien est-ce qu'en théorie, le budget de l'enseignement privé pourrait dépasser celui de l'école publique ? Est-ce que c'est légalement possible ?
Alors, il y a des limites qui sont posées dans la loi au financement public en direction des établissements privés. C'est-à-dire que le code de l'éducation va lister ce qu'il est possible de subventionner. Alors, on pense bien sûr au personnel, aux enseignants qui sont payés par l'État, mais il y a aussi des frais de fonctionnement. Mais il faut reconnaître que depuis 1959, le système a évolué en faveur des établissements privés. Je m'explique en prenant quelques exemples. En 1977, la loi a prévu une égalisation des situations des enseignants du privé et du public. Une prise en charge également des dépenses de formation des enseignants du privé par l'État. En 1985, on a créé une contribution forfaitaire des collectivités territoriales aux établissements privés de leur territoire. Et plus récemment, on le sait, l'État a augmenté les salaires des fonctionnaires, enfin des enseignants. Cette disposition, elle est applicable également aux enseignants du secteur privé, parce qu'on a un principe de parité entre les enseignants publics et privés. Donc en fait, ces exemples, mais il y en a d'autres, hein, montrent une accumulation progressive de dispositifs de financement favorables aux établissements d'enseignement privé. Mais sur le point du droit, il n'y a rien à dire. Le Conseil constitutionnel a posé dès 1977 que l'octroi de financement public aux établissements privés, c'est une composante essentielle du principe constitutionnel de la liberté d'enseignement.
Mais en tout cas, l'enseignement public, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, manque de moyens. L'investissement de la France dans l'école publique est inférieur à la moyenne de l'investissement des pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. En revanche, pour l'investissement des écoles privées, la France est bien au-dessus de la moyenne des 59%. Nous sommes donc particulièrement mauvais élèves sur cette question ?
Alors, je dirais que comparaison n'est pas raison et que tous les pays de l'OCDE n'ont pas un système scolaire identique, donc je ne m'aventurerai pas à les comparer. J'ajouterai simplement que moi, ce que ce rapport m'enseigne, c'est que la part du financement public des établissements privés ne présente pas en France une véritable exception. C'est-à-dire qu'en France, elle est majoritaire, mais dans de très nombreux pays de l'OCDE aussi.
Ça marche. Alors donnons peut-être un autre exemple proche de chez nous. Entre 2016 et 2023, le Conseil régional des Pays de la Loire a versé plus de 234 millions d'euros de subventions optionnelles aux lycées privés. Le procureur de la République de Nantes a ouvert une enquête concernant des subventions versées par la région à des écoles privées et hors contrat à Angers et au Mans. La majorité de Christelle Morancé aurait contourné l'interdiction de financement du privé et d'établissements autres que les lycées en accordant l'édit de subvention au titre du combat pour l'emploi, de la formation, du décrochage scolaire et de l'insertion professionnelle. L'association Anticor y voit là un possible détournement de fonds publics. Alors, est-ce que légalement, il est possible pour une collectivité d'allouer de tels financements à des établissements privés qui, on le rappelle, sont hors contrat ?
Alors, je ne commenterai pas une affaire en cours d'instruction, bien sûr. Ce que j'aimerais bien rappeler, pour clarifier un peu ce schéma-là, c'est que l'école privée, elle est financée par plusieurs acteurs publics. Jusqu'à présent, on a parlé de l'État, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Mais on a aussi des acteurs publics locaux qui sont financeurs. Par exemple, la loi, elle impose une participation des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles privées qui sont sur son territoire ou sur le territoire d'une autre commune, si ces enfants résidents n'ont pas d'autre choix que d'y aller. Mais c'est bien logique parce qu'on l'a vu, il y a un contrat entre l'établissement et l'État. Alors, j'ajoute quand même que les financements des écoles privées sont tellement nombreux et variés qu'il y a une certaine opacité, malgré tout, à distinguer qui finance quoi. Mais à côté de cela, et on n'en a pas encore parlé, il y a des écoles qui ne sont pas liées à l'État par un contrat, donc des écoles dites hors contrat, et de facto, elles sont exclues de tout financement public. Et là encore, c'est logique, eu égard à ce que nous avons vu précédemment. Et en premier lieu, c'est le juge administratif qui s'assure du respect de cette interdiction de subvention, qu'elle soit directe ou indirecte, hein, par des aides, même des aides matérielles. Ça, c'est le juge administratif. Et s'il y a une infraction pénale, c'est évidemment vers le juge judiciaire on va se tourner.
Alors, nous avons spécifié en introduction que nous ne commenterions pas les affaires Betara, mais celles des autres établissements privés ciblés par des plaintes ou des rapports faisant état de violences diverses et multiples. Cependant, il y a un point sur lequel on peut tout de même s'attarder, ce sont les inspections insuffisantes, voire inexistantes, de ces établissements. Pour ne prendre que l'exemple de Betaram, l'établissement n'a été inspecté qu'une seule fois en 1996. Il en est sorti un rapport de 3 pages qui ne tient plus la route aujourd'hui, selon le propre aveu de l'inspecteur qui l'a rédigé. Alors l'État n'est-il pas tenu d'inspecter plus rigoureusement les établissements avec lesquels il est sous contrat, Émilie Moisan-Janard ?
Alors, oui, l'État est même, je dirais, tenu de les inspecter. Alors, quels sont ces contrôles ? Il y a plusieurs acteurs qui contrôlent. Vous avez les préfectures, les rectorats, vous avez aussi la direction départementale des finances publiques. C'est-à-dire qu'on a des contrôles financiers, car n'oublions pas que c'est de l'argent public qui est donné à ces établissements. On a aussi des contrôles administratifs qui visent à s'assurer du respect par l'établissement de l'obligation scolaire, de l'ordre public, de la prévention sanitaire et sociale, par exemple. Et puis, on a un contrôle pédagogique, parce que n'oublions pas que ces établissements sous contrat doivent suivre le programme fixé par le ministère. Mais la Cour des comptes a effectivement montré en juin 2023 que le contrôle financier n'est pas mis en œuvre, que le contrôle administratif n'est que ponctuel et encore si un problème est signalé, et le contrôle pédagogique est minimaliste. Mais j'ajouterais que les inspections coûtent de l'argent, hein, donc on peut évidemment y voir peut-être une raison à ce faible nombre d'inspections. Mais j'aimerais rajouter, puisqu'on parle de laïcité ce soir, puisqu'on va y venir, les inspections, elles doivent aussi s'assurer que la liberté de conscience des élèves est respectée. Et notamment, les enseignements catéchétiques, ils sont facultatifs. Et un rapport 2024 de l'Assemblée nationale a montré que cette obligation, cette liberté, elle n'est pas toujours respectée.
Eh bien, on va donc à présent se pencher davantage sur cette question de la laïcité. Et je me tourne vers vous, Hugo Gaillard. D'abord, peut-être expliquez-nous pourquoi l'école publique est laïque et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Bien, concrètement, ça a des implications complètement pratiques, hein, que je vais énumérer juste après. Et puis, on a déjà quelques éléments de réponse. Mais principalement, c'est un but éducatif. Hein. Le but, c'est de créer un espace commun relativement neutre pour former des citoyens libres, capables de réfléchir de manière autonome et de les protéger de toute influence religieuse dans le cadre scolaire. Ça, c'est pour l'école publique laïque. Vous voyez ici, il y a quand même quelques présupposés. Un des présupposés, c'est par exemple que les figures d'autorité dans le contexte de l'école sont des figures qui peuvent avoir de l'influence sur les enfants qui y sont scolarisés. Et donc, il faut les protéger de certaines influences, qu'elles soient politiques, religieuses ou philosophiques. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est la laïcité à l'école ? C'est donc la neutralité des enseignants et du personnel, hein, quand il s'agit de l'école publique, l'interdiction de tout prosélytisme, l'interdiction des signes religieux depuis la loi de 2004, portée par les élèves, le respect de toutes les convictions, en théorie dans les échanges, et des contenus qui sont fondés sur la raison et la science. Et donc ça implique aussi, de façon très pratique, que lorsqu'on contrôle des établissements qui sont, eux, plutôt de statut privé, on puisse s'assurer que les contenus ne contestent pas des vérités scientifiques et ne sont pas l'occasion de le faire.
Alors, les écoles privées ne sont pas tenues d'appliquer cet enseignement laïque. Au mieux, dans les établissements sous contrat, on l'a dit, les activités confessionnelles ne sont pas obligatoires. Cependant, rappelons que la préfecture du Nord a reproché au lycée musulman Averroès à Lille des manquements graves aux principes fondamentaux de la République, des accusations qui portaient notamment sur le cours d'éthique musulmane. La préfecture a alors décidé de rompre le contrat d'association entre le lycée et l'État. Le contrat a cependant été rétabli par une décision de justice. Ce que nous apprend cette affaire, c'est tout de même la difficulté apparemment de concilier l'enseignement religieux et les valeurs de la République telles qu'enseignées dans le public. Alors quand on rappelle également le manque d'inspection dont bénéficient particulièrement les établissements de confession chrétienne, ne peut-on pas s'inquiéter d'un enseignement qui suivrait une voie alternative à celle de la République et qui concerne près de 15% des élèves français ?
Si, on peut s'inquiéter d'un tel enseignement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des contrôles. Alors on a discuté ensemble du fait que ces contrôles étaient insuffisants, certainement du fait d'un manque de moyens. Là, ce qui se passe aussi autour du cas du lycée Averroès, hein, c'est le sentiment de deux poids deux mesures chez un certain nombre de concitoyens français de confession musulmane qui considèrent que on va plus souvent contrôler, peut-être à raison, moi j'ai pas de chiffres pour le soutenir.
Hein. D'après la commission d'enquête sur Betaram, c'est un fait. Voilà, donc le lycée Averroès était beaucoup plus contrôlé que les établissements publics de confession catholique.
Voilà, donc un sentiment de deux poids deux mesures dans l'intensité des contrôles selon la confession de l'école privée qui serait visée. Donc c'est plutôt ça que révèle à mon avis ce cas-là, c'est ce sentiment qui est ici malheureusement soutenu par des faits.
D'ailleurs, pour rester sur peut-être cette inégalité de traitement, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, insiste sur l'importance de la laïcité dans le sport, notamment à travers une phrase « Vive le sport et abat le voile », dit-il. Si la laïcité est aussi essentielle dans le sport, ne l'est-elle pas tout autant dans l'éducation, Hugo Gaillard ?
Bon, c'est une bonne question, mais c'est pas à moi de vous dire si la laïcité est essentielle ou pas. Moi, je suis pas là, vous m'avez pas invité pour donner mon opinion personnelle, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il y a une frange majoritaire en France de personnes qui considèrent que la laïcité, c'est quelque chose d'important dans tous les domaines publics, y compris donc le domaine du sport. Le domaine du sport, par exemple, hein, c'est un exemple intéressant parce qu'on voit qu'il y a de nombreuses polémiques encore ici sur les questions de port du voile par les sportives, par exemple, de port de signes religieux, mais en fait, en l'occurrence, on parle là la plupart du temps du voile lors de la représentation du pays lors de compétitions officielles. On a eu des débats sur ce sujet pendant les Jeux Olympiques. Donc, ce que l'école et le sport posent comme question ici, c'est la question des règles de la laïcité, de son application et de ce que ces règles donnent comme coloration à un principe qui est d'abord philosophico-juridique. Enfin, c'est une combinaison d'un principe philosophique et de règles juridiques, mais selon comment on applique, complète, amende ces règles, la perception du principe, elle, va changer et peut générer le sentiment de deux poids, deux mesures qu'on disait plus tôt, ou au contraire, peut donner le sentiment qu'elle contribue à l'unité nationale, ce qui est un objectif initial de ceux qui la défendent.
Et du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, on peut quand même se poser la question, quand on admet cette place centrale de la laïcité dans la République française et dans l'éducation de nos futurs citoyens, est-ce qu'il y a une légitimité de l'éducation confessionnelle, et s'il y en a une, est-ce qu'il y a alors une légitimité à ce qu'un État laïque finance ces établissements d'éducation non laïque ? Comment est-ce que c'est justifiable en principe ?
Oui, merci pour cette question. Le Jules Ferry, qui est à l'origine des lois Ferry, qui ont au départ contribué à la laïcisation de l'école parmi d'autres, disait et savait que ses électeurs, je cite, « aimaient autant les processions que la raison ». Donc il ne voulait pas, en poussant cette laïcisation de l'école, éradiquer de la société toute forme de religieux, mais il voulait quand même clairement distinguer ce qui relevait de la responsabilité de l'école publique de celle des églises. Donc c'est des lois qui ont libéré, par exemple, pour un jour dans la semaine, le droit de mettre ses enfants à l'instruction religieuse. Donc c'est plutôt une loi de compromis, comme la laïcité est plutôt le créneau de l'agnosticisme, hein, c'est-à-dire une loi d'équilibre, une loi qui dit, voilà, on sépare le politique et le spirituel, mais on n'exclut pas le spirituel de la vie publique pour autant, en tout cas. Donc les établissements privés confessionnels, pour répondre clairement à votre question, ils peuvent exister, d'ailleurs ils existent, mais ils ne doivent pas contourner les principes républicains tels qu'ils ont été discutés plus tôt, et il faut être très vigilant sur les questions de liberté de conscience. C'est pour ça qu'il existe des contrôles et qu'on peut souhaiter qu'ils soient maintenus, voire renforcés et appliqués surtout de façon équitable et égalitaire.
Oui, parce que vous rappelez effectivement cette liberté de culte que permet et doit permettre la laïcité. Ça fait effectivement partie de ce que c'est que la laïcité. Mais est-ce que le choix d'une éducation confessionnelle entre dans le cadre de ce qu'on appelle la liberté de culte, ou bien est-ce que l'éducation dispensée aux citoyens français devrait rester un domaine à part, détaché de la religion ?
La réponse du principe de laïcité et des écoles et de l'école publique libre, gratuite et obligatoire, c'est plutôt que oui, il faudrait détacher, mais en même temps, comme on l'a dit, c'est plutôt une loi de compromis qui laisse d'autres possibilités. On a parlé de liberté d'enseignement plutôt, hein, avec ma collègue. On parle maintenant de d'autorité parentale aussi, hein, parce que les parents ont aussi la liberté de faire les choix et la responsabilité même de faire les choix qui sont les meilleurs pour leurs enfants en leur propre conscience. Ils ont une obligation, c'est de mettre leurs enfants à l'école à partir de 3 ans. Ça, c'est l'obligation scolaire. Ensuite, le choix d'une éducation confessionnelle, ça relève de la liberté d'enseignement, de la liberté de culte, et ça signifie pas que l'État doit financer tous les types d'éducation religieuse pour autant. On voit bien qu'il y a quand même une différence assez nette entre le privé sous contrat et le privé hors contrat, en termes de conditions d'enseignement, mais aussi en termes d'horizon de valeur, hein. C'est aussi de ça qu'on parle depuis tout à l'heure. Donc pour la deuxième partie de votre question, moi je m'exprime ici en tant qu'universitaire, donc je pense qu'il est plus raisonnable d'enseigner des connaissances basées sur des preuves pour ce qui est de l'éducation commune, partagée, le socle commun, mais je suis aussi un citoyen qui pense qu'une société où on restreint trop les libertés religieuses produira in fine de la division, du repli. Donc à mon avis, il faut trouver et peut-être plutôt maintenir l'équilibre qui existe là, avec des renforcements à droite ou à gauche, notamment sur l'augmentation des contrôles des écoles privées de façon plus équilibrée.
Je vous remercie Hugo Gaillard, référent laïcité de Le Mans Université, ainsi que Émilie Moisan-Janard, maîtresse de conférence en droit public, directrice du master de droit public, parcours affaires et politique publique sur le campus de Laval de Le Mans Université. Merci beaucoup pour vos éclairages.
Merci.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.